On pourrait faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer les fragments d'une époque pour les transmettre aux générations futures. Un peu comme une bouteille jetée dans la mer du temps.
Ensemble, nous démarrons l'émission Capsule temporelle.
Alors voilà, aujourd'hui, je suis donc à Saint-Lathier, à la Clé des Sables, avec Mathieu, qui va nous expliquer, donc présenter le projet, se présenter. Allez, bonjour Mathieu.
Bonjour. Et bah du coup, oui, on va parler un petit peu de la Clé des Sables. Donc on est une ferme collective à Saint-Lathier, au hameau des Sablières. On est 9 agriculteuristes. Le projet, il a commencé il y a 5 ans bientôt. 4 ans à des noix, comme c'est souvent le cas dans la région. Des grandes cultures, du coup, avec lesquelles on fait de la farine, on transforme en pain. Et également de l'huile. On a l'huile de tournesol, de l'huile de noix, effectivement, et des graines de tournesol. Ensuite, on produit bien sûr des légumes, donc légumes diversifiés. On fait le marché à la ferme tous les jeudis soirs. On a également des produits transformés à partir des légumes, donc des conserves, des pestos. Et on a également des petits fruits, donc on fait nos propres sorbets de glace qu'on vend aussi, notamment le jeudi soir au marché. En autre produit, on a ce qu'on appelle les PAM, donc les plantes à parfum aromatique et médicinal. Donc ça c'est Marina qui produit des sels aromatisés, des tisanes et des pestos principalement. Depuis un an maintenant, on a des vaches qui sont arrivées, donc on a aussi une partie élevage.
Et à combien ?
Alors, actuellement, on a 6 vaches qui sont traites tous les jours, et en tout, le troupeau, si on compte les veaux, les velles, les génisses et les mamans, on est à un peu plus de 20 vaches.
Oh.
Voilà, c'est un petit troupeau, hein, mais donc là, on est sur la période où on attend le fromage avec impatience, mais pour l'instant, on se régale déjà avec le lait, les yaourts et les produits laitiers. Et du coup, dans quelques mois, quand la fromagerie sera terminée, on pourra goûter des très bons Saint-Marcellin, notamment bio. Ils vont faire aussi une espèce de tome un peu style camembert et aussi une pâte pressée style Comté, Beaufort. Voilà pour les produits. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Depuis peu également, on a Adrienne qui vend des plants de légumes et de fleurs, du coup à des particuliers directement au marché. Et je pense que j'ai fait le tour des produits. Et oui, les noix aussi, bien sûr. J'en ai parlé au début.
Ouais, au début. Ok. Par contre, j'aimerais bien qu'on revienne sur vraiment la base du projet. C'est-à-dire comment vous êtes retrouvés. Est-ce que c'est un lieu que vous avez acheté, loué? Comment ça se passe? C'est associatif, j'imagine. Enfin, comment vous avez fonctionné?
Alors, l'histoire de la Clé des Sables. En gros, on est... On travaille sur une cinquantaine d'hectares environ, dont 4 sont propriétés à la SCIC, la Clé des Sables, donc c'est une société civile d'intérêt collectif. Toutes ces terres appartenaient avant travaillées avant par une seule personne qui s'appelle René Cluse, qui est un voisin et donc le cédant, qui est aussi on a la chance que ce soit un ami. Donc René Cluse, lui, il faisait des noix et des grandes cultures sur ses 50 hectares, un peu d'asperges, et de temps en temps des légumes, mais style une année, il faisait des poireaux, et puis voilà. Et du coup, il cherchait à transmettre sa ferme. L'histoire a commencé avec Nicolas Goyer, qui était installé à Saint-Lathier, et qui cherchait à s'installer en agriculture. Il était vétérinaire agricole. Et du coup, en habitant à Saint-Lathier, il a eu l'occasion de rencontrer René. Ils ont discuté, ils ont travaillé ensemble. Et Nicolas avait dit à René qu'il avait pour projet de faire de sa ferme potentiellement une ferme collective. Mais pour Honnay, c'était quand même plus simple, et on le comprend, de vendre à une seule personne, parce que le projet était seulement en émergence. Donc, en 2020, Nicolas a repris cette ferme dans son ensemble, avec trois tracteurs, avec tout le matériel pour les noix, pour les grandes cultures, etc. Et avec l'idée derrière de l'ouvrir à d'autres. Dans la foulée, en fait, il y a eu l'opportunité d'acheter deux bâtiments où on est actuellement, donc des bâtiments plus d'habitation, hein, mais qui sont assez vétustes, et les 4 hectares de terrain agricole qui sont autour. Du coup, à ce moment-là, Nicolas avait déjà commencé à travailler avec d'autres personnes sur un projet collectif. Donc, on peut citer Lucas, Céline, Brice, et donc ils ont créé la SCIC, la Clé des Sables, à ce moment-là pour acheter ces deux bâtiments et ces 4 hectares. Et c'est là que le projet a commencé. Il y a eu par le suite des réunions pour ouvrir le projet au plus grand nombre possible. Et du coup, l'idée de Nicolas, quand il s'est installé, c'était, lui, il avait la chance de pouvoir s'installer assez facilement, rapidement. Parce que bah, bien sûr, pour reprendre une ferme où il y a des tracteurs, où il y a du matériel, il faut avoir de l'argent. Il a créé une entreprise et des gens ont mis de l'argent, donc il avait cette chance-là de pouvoir s'installer comme ça. Et donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir cette ferme au plus grand nombre possible. Et voilà, du coup, depuis 5 ans, ça a beaucoup évolué. Il y a des personnes qui sont parties, dont j'ai cité notamment Brice qui était sur les grandes cultures, qui est parti sur d'autres projets, et Céline qui était sur les plantes aromatiques et médicinales, qui est parti mais qui a transmis à Marina. Et depuis, beaucoup de personnes sont arrivées. Donc ça a été très vite Paloma, qui était sur les petits fruits et la cuisine, et donc la transfo, qui fait notamment les sorbets. Ensuite, il y a eu Rémi, le Pélian boulanger, et moi-même Mathieu, qui a rejoint... Ah pardon, j'ai oublié Lucas. Je reviens en arrière. Il y a eu Lucas au tout début qui était sur le maraîchage. Et ça, c'est assez intéressant à raconter. En fait, René Cluse, il avait une parcelle de 5000 mètres carrés qu'il laissait à disposition de personnes qui voulaient tester, en maraîchage principalement. Et du coup, bah, l'idée, c'était, voilà, il leur laissait le terrain pour 1, 2 ans. Et ces personnes pouvaient tester leur activité avant d'aller s'installer ailleurs. Et au moment où Nicolas a commencé à travailler et à racheter la ferme de René, bah, Lucas était sur cette parcelle. Du coup, Lucas était sur le début du projet également. Donc voilà, pour revenir à l'histoire de Lucas, et donc moi j'ai rejoint, si vous voulez, chronologiquement là on arrive en 2022, donc j'ai rejoint Lucas en maraîchage. Ensuite, donc j'ai dit Rémi en grande culture, le paysan boulanger. Il y a Fanny aussi, alors Fanny elle était présente depuis très longtemps sur la ferme avec un projet d'installation en élevage, donc elle était souvent là au départ pour nous donner des coups de main bénévolement, et le projet a abouti, donc... Parce qu'elle ne voulait pas s'installer seule en élevage, c'est compliqué. Donc le projet a abouti il y a un an. Le projet a abouti il y a un an avec Clément. Donc voilà, ils se sont associés à deux pour accueillir des vaches bretonnes pinoires sur la ferme. Et du coup, on a depuis peu des produits laitiers. Donc voilà, Fanny, Clément, Marina aussi, qui est arrivée. Donc Marina, elle est arrivée il y a 2 ans et demi, qui a pris la suite de Céline, donc en plate aromatique et médicinale. Et la dernière personne, c'est Adrienne. Donc Adrienne, ça fait 1 an et quelques qu'elle est sur la ferme, et elle attaque sa deuxième saison. Et elle vend donc des plants de légumes aux particuliers, sur des foires, sur des marchés, aussi des plants de fleurs.
Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ça fonctionne une ferme collective? C'est-à-dire que quand vous vendez quelque chose, ça vient à un pot commun, après c'est redistribué. Comment ça fonctionne au niveau fonctionnement financier, enfin voilà, comment vous arrivez à gérer tout ça?
Eh ben, on arrive à gérer tout ça, c'est pas simple, hein, on ne va pas se le cacher. Forcément, nous on est dans. Avant de vous expliquer un peu en détail comment ça se passe, on a des principes de base qui sont, bah, bien sûr, l'entraide agricole. Alors, on ne l'a pas inventée, hein, elle existait dans le quartier avant, elle existait de partout depuis très longtemps. Mais en tout cas, on la formalise dans notre cas, on va dire. On est aussi sur la mutualisation des moyens de production, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un bâtiment en commun, mais on a aussi du matériel en commun, des tracteurs, des débroussailleuses, des tronçonneuses, des outils manuels, un peu plein de choses. Et un lieu commun, donc ici, un marché commun également. Et après, le dernier, un des principes ainsi importants pour nous, c'est la transmissibilité, c'est-à-dire que bah, peut-être qu'on ne va pas rester toute notre vie paysan-paysanne à la Clé des Sables et qu'on partira sur notre projet, qu'on sera fatigué ou malheureusement qu'il nous arrivera quelque chose. Donc, on a le droit de partir à un moment. Donc, la transmissibilité, c'est-à-dire que bah, quand on sait qu'on va partir, on informe tout le monde et on transmet son atelier, son activité agricole à une personne qui arrive. Et du coup, il faut une période de tuilage, généralement d'un an, pour pouvoir transmettre cet atelier. Il faut aussi que son atelier soit transmissible. Voilà pour les principes de base. Après, comment on est organisé? Alors, au niveau juridique, on va partir de là. Donc, la SCIC, c'est pas une société agricole, c'est une société de l'économie sociale et solidaire. Du coup, ça veut dire que pour nous, c'est un peu un chapeau qui va justement retenir les principes que j'ai évoqués, donc la mutualisation des moyens de production, l'entraide, etc. C'est aussi ce qui nous permet de communiquer ensemble, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir ce marché en commun, etc. Et aussi d'avoir aussi un message politique, bien sûr, à faire passer en tant que ferme collective. Donc la SCIC, elle ne peut pas, elle n'a pas pour objet, en tout cas, elle a pour objet d'aider à installer des agriculteurs pour qu'ils nourrissent localement la population, mais elle n'a pas pour objet de produire directement. Et alors, j'explique, cette structure qui est de l'économie sociale et solidaire, notamment, elle ne peut pas avoir accès aux aides agricoles. Notamment, je parle de la dotation jeunes agriculteurs quand on s'installe et qu'on a moins de 40 ans, je parle des crédits d'impôt bio quand on est en agriculture biologique, je parle de certaines subventions d'aide à l'équipement aussi, qui sont européennes. Du coup, c'est pas terrible. Donc nous, on a fait un système hybride. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Nicolas Goyer a repris la ferme de René Cluse. Il a fait rentrer des gens qui ont pu mettre de l'argent dans cette ferme. Donc, lui, il a créé à la base une SCER, donc une société civile d'exploitation agricole. Donc, en gros, on a la Clé des Sables et en dessous de la Clé des Sables, on a plusieurs structures agricoles. Au jour d'aujourd'hui, on a deux entreprises individuelles. Donc, Marina qui fait les plantes à parfum aromatique et médicinal et Adrienne qui fait la vente de plants de légumes et de GAEC, donc groupement agricole d'exploitation en commun. Donc un GAEC maraîchage transformation avec aussi les petits fruits et un peu de cuisine, et un autre GAEC qui est sur les noix, grande culture, élevage et transformation en produits laitiers et en farine, etc. Et du coup, bah, d'avoir ces structures, ça nous permet plusieurs choses. Déjà, comme je disais, bah, d'avoir accès à toutes ces aides. Alors bien sûr, dans l'idéal, on aimerait bien que les SCIC et les SCOP puissent avoir accès à ces aides. Ça nous permettrait d'avoir qu'une seule structure et pour nous, ce serait beaucoup plus simple. Parce que notamment, bah, par exemple, si on veut faire des achats en commun, oui. Et bah, c'est une structure qui va acheter, qui va devoir faire une refacturation à l'autre structure qui aura profité, enfin bref. Ça nous fait, et pareil sur l'administratif, dans chacune des structures agricoles, on doit faire de la comptabilité, mais on doit faire aussi de la comptabilité pour la SCIC. Et tout le travail un petit peu administratif qu'on paie pour la Clé des Sables, du coup, bah, au final, il est un petit peu bénévole. Voilà. Donc c'est un système hybride qui est pas simple à comprendre, j'entends bien, mais qui nous permet en tout cas pour finir, ça nous a permis de pas tous nous installer à la même date. Parce qu'entre Nicolas qui s'est installé en 2020 et les dernières installées qui ont été en 2023, on va dire, et ben, y a eu plusieurs années. Et ça permet aussi, bah, comme je disais, d'avoir des structures de taille différente. Une entreprise individuelle, c'est un peu moins administratif, un peu moins lourd, et souvent moins d'investissement qu'un GAEC ou une structure où on serait plusieurs.
Donc, je te coupe. Mais... Donc, ça veut dire que les gens qui veulent intégrer la ferme collective, ils ont un investissement à apporter. Ils restent individuels, c'est ça?
Alors, très bonne question. nous, on a mis ensemble un processus d'intégration pour les personnes qui souhaiteraient intégrer la ferme. On a plusieurs étapes. La première étape, c'est les porteurs ou porteuses de projets. C'est-à-dire que si quelqu'un est intéressé, il vient nous voir, il nous envoie un mail, on fait une petite période style stage pour avoir une prise de contact. Et après, cette personne présente son projet. Si il y a un accord du collectif pour accueillir cette personne, on va partir sur une période test qui peut durer de 1 à 3 ans, pendant laquelle cette personne, on va lui laisser une parcelle à disposition pour qu'elle teste son activité. Et on va lui demander de prendre une part sociale, 250 euros, dans la clé des sables, qu'elle pourra reprendre quand elle s'en va, hein, bien sûr. Et on va lui... Et la charge qu'elle aura à payer, c'est une partie, mais on dit, quand je dis une partie, c'est même un tiers des charges. Et quand je dis les charges, une part normale des charges, c'est divisé par 9 parce qu'on est 9. Et quand on est porteur de projet, on redivise encore pour qu'il y ait moins de poids là-dessus. Et là, on parle de l'eau, l'électricité, voilà. Donc ça, c'est la première étape, on est porteur de projet. Après, on a une étape intermédiaire où on est préinstallé, c'est-à-dire qu'on prend un peu plus de part sociale et là, on va payer une part entière des charges. Et la dernière étape, c'est producteur ou productrice associée. Et là, on devient associé de la SCIC, et du coup, on va prendre l'équivalent de 7500 euros de part sociale. Cette somme a été choisie pour rester en dessous de ce qu'on obtient quand on demande une dotation jeunes agriculteurs. C'est-à-dire, généralement, c'est dans les 20 000 euros minimum. L'idée, c'est de permettre à tous de pouvoir potentiellement s'installer ici, même si c'est une personne qui... à la base, a peu de revenus, qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a pas la chance d'avoir des parents ou je ne sais quoi. Du coup, voilà, c'est vraiment réfléchir aux discriminations et aux privilèges de faire ce système. Après, effectivement, dans les faits, aujourd'hui, on est 9, on est à 50 hectares, donc avec de l'élevage, avec du maraîchage, avec des grandes cultures et des noyers. Et on est sur un nombre quasiment optimal, dans le sens où demain on pourrait pas accueillir 3 personnes de plus parce qu'on n'a pas l'espace et surtout il y a les réunions. Quand on fait nos réunions qui durent 2 heures, bah, quand on est là, ça passe aujourd'hui à 9, mais si on était 15, la réunion elle durait plus 2 heures mais 3 heures. Quand on fait un tour, on va demander le ressenti à chacun et chacune des personnes, bah, ça prend plus de temps et c'est normal. Et donc pour l'instant on est plutôt content de ça. Puis aussi il y a le fait que un groupe, ça met du temps à se connaître, à apprendre à travailler ensemble, à se construire, etc. On est assez contents et fiers tous des valeurs qu'on porte. Du coup, voilà. Après, bien sûr que dans le temps, demain, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être quelqu'un va partir, peut-être quelqu'un va arriver, peut-être que demain, quelqu'un va arriver sans que personne ne parte, je sais pas. Hein, aujourd'hui, on en est à peu près là. Voilà.
Juste, vous habitez pas sur les lieux aussi ?
Eh ben non, bonne question. Aujourd'hui, personne n'habite sur la ferme. La ferme, c'est vraiment ce qui est collectif, c'est un outil de travail, un lieu commun, un outil social aussi, hein, parce qu'on accueille sur nos marchés les voisins, mais aussi des habitantes des villages voisins, des amis. Il y a une buvette, c'est convivial, il y a à manger, etc. Et pour nous, c'est très important ce lien social en zone rurale. Et du coup, on habite tous pas loin, donc certains en coloc, certains en maison, certains en habitat collectif. Mais on est tous, on va dire, dans un rayon de 5 km de la ferme maximum, ce qui nous permet d'être rapidement ici, si besoin.
Alors là, j'ai vu que vous aviez une nouvelle construction. Donc ça veut dire, alors là, ça, c'est fait avec des subventions, des aides ou des choses comme ça ?
Oui, du coup, notamment l'objet de la SCIC, pour nous, c'est de porter tout ce qui est foncier et bâti, dans le sens où donc le bâtiment dont on a fait le tour tout à l'heure, bah, c'est un bâtiment multi-activité, c'est-à-dire qu'il regroupe à la fois le maraîchage, les noix, les grandes cultures, les plantes aromatiques, l'élevage, etc. Et avec un espace aussi commun, salle de réunion et bureau. Et du coup, aucune entreprise n'aurait pu porter seule ce projet au niveau investissement. Les banques nous auraient clairement dit non. Effectivement, et du coup, voilà, c'est la SCIC qui a fait construire ce bâtiment et qui est propriétaire de ce bâtiment. Et du coup, c'est les structures agricoles qui payent même un loyer pour occuper les espaces. Et pour répondre à ta question sur comment a été financé ce bâtiment, bah alors il y a eu 3 choses. Très classique, des prêts aux banques, hein, bien sûr. Après, la deuxième chose, c'est des subventions. Donc, subventions européennes FEADER, qui ont permis de payer en ça a été un peu un tiers, donc un tiers banque, un tiers subvention, et le dernier tiers, ce qu'on appelle des titres participatifs. Alors ça, c'est possible parce que justement, on est SCIC. Du coup, là, c'est un peu comme des banques, sauf qu'on va aller chercher, emprunter de l'argent à des gens. Donc ces gens qui nous prêtent de l'argent sur du long terme, minimum 7 ans. Au bout de 7 ans, si on a la trésorerie, on les rembourse. Si on ne l'a pas, on leur demande de prolonger cette période de 7 ans plus. Et tous les ans, on leur verse un intérêt. Alors, quand je dis un intérêt, c'est un intérêt qui est moindre qu'une banque. Du coup, pour nous, c'est avantageux.
Et ça se trouve comment, ça?
Alors, ça se trouve comment? Bah, c'est spécial à l'économie sociale et solidaire. Okay. Je pense que ça existe aussi sur les SCOP et sur les SKIC.
C'est pas les cigales, non,
c'est... Mais il y a des cigales qui ont investi... dans notre plan de montage financier dans le nouveau bâtiment, effectivement, c'est un peu les mêmes choses, sauf que là, c'est des particuliers, donc on a bien sûr sollicité les proches, les familles, mais il y a des gens qu'on connaît pas ou quasiment pas, qui ont mis des sous et qui, voilà, c'est comme s'ils prêtaient à une banque sur du long terme, ils savent qu'ils verront pas l'argent pendant longtemps, et puis un jour, on leur rendra quand nous, on aura fait en sorte d'avoir à rembourser déjà les banques, puis à faire entrer un peu d'argent dans la clé de ça pour les rembourser. Voilà, donc ça a été pour nous très important dans le sens où ça pousse encore le projet collectif un peu plus loin. Donc ça permet à des personnes extérieures qui ne sont pas agriculteuristes de mettre un pied dedans, tout comme des personnes qui prendraient des parts sociales un peu. Et puis ça nous a permis de construire un beau bâtiment dans le sens où le bâtiment qu'on a visité, c'est un hangar agricole dans les faits, hein, sur le cadastre. Mais c'est un garage agricole qui est fait avec une ossature bois, avec des murs, c'est pas juste un toit et des poteaux métalliques. Et pour nous, c'est important d'avoir cet outil de travail qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc on bricolait à gauche, à droite, dehors, à transporter des palox pour les noix en traversant la route, à faire beaucoup de voyages en camion. Et c'était fatigant, très clairement. Et donc là, on est en train de l'aménager. Et on réfléchit aussi, du coup, on peut enchaîner là-dessus, au futur des deux premiers bâtiments que la SCIC, la Clé des Sables, a acheté. Donc je vais en dire plus. On en parlera tout à l'heure des marchés guinguettes, on vous donnera d'ailleurs la programmation, mais on a une association qu'on a créée justement pour s'occuper des événements autour de la ferme, donc qui tient la buvette, qui fait la restauration pendant les concerts, et qui organise... les concerts, et depuis peu il y a un groupe qui s'est créé, un groupe de femmes qui s'est créé pour notamment penser l'avenir de ce bâtiment qui est en face de nous, donc le bâtiment qu'on utilisait jusqu'à très peu de temps pour notre cuisine, notre salle de réunion, des lieux de stockage, etc. Ben maintenant on va tout transférer dans le nouveau bâtiment, et donc on a un bâtiment qui tient debout, qui est à peu près en état, alors il y a un peu des travaux à faire, mais dans l'idée, donc les personnes qui ont proposé un projet, elles ont un projet de faire un petit café associatif, donc ça sera ouvert bien sûr tous les jeudis soirs comme il y a le marché, mais sûrement un ou deux jours de plus dans la semaine, pour inviter notamment ça peut être par exemple les voisins, et on a pas mal de personnes du troisième âge, ça peut être... Pourquoi pas faire un atelier avec les enfants aussi, ça peut être quelque chose de plus militant aussi. Voilà, donc ça sera vraiment ouvert à tout public. Et je ne vais pas en parler plus parce que c'est pour l'instant l'étape de projet, mais la seule chose que je peux dire et qui a été actée, c'est que les sous de l'association qui s'appelle le Sablier, donc qui est lié à la ferme, ils vont les sous gagner. Donc quand on organise des concerts, des buvettes, etc., ils vont permettre de financer des travaux pour notamment commencer à aménager ce bâtiment et en faire un lieu d'accueil plus sympa et plus chaleureux. Voilà. Ouais, carrément. Et pour nous, c'est important.
C'est ça, du coup, ça va créer du lien aussi, encore plus, je dirais, avec les gens peut-être du village, etc. Voire plus.
Ouais, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que l'association avait été créée. C'était pour... permettre à des gens de s'emparer aussi du projet de la ferme, dire que nous, on est sur la production agricole, mais qu'il n'y a pas que ça. La ferme a aussi des valeurs humaines, sociales. Du coup, l'association a été créée pour ça et qu'on continue dans cette voie avec ce projet, c'est super, pour nous c'est très important. On travaille aussi avec d'autres associations qui sont très importantes pour nous. On a notamment à Saint-Antoine-l'Abbaye, Binette et compagnie. Voilà. Voilà, donc qui est une association qui accueille des personnes porteuses de handicap. Et du coup, nous, on a une convention avec cette association qui vient une fois par mois pour faire des petits chantiers sur la ferme. Voilà, on les accueille aussi s'ils veulent venir faire un stand au marché. Et on est vraiment contents de travailler avec elle. Et on travaille aussi depuis 2 ans maintenant un petit peu avec la maison de quartier de Romans-sur-Isère, principalement la maison de quartier de Saint-Nicolas. Du coup, il y a eu tout un travail qui a été fait par cette association pour monter les paniers de quartier solidaire. Du coup, bah, notamment, ils nous achètent des légumes, mais c'est pas ça le sujet. Hein. Ils ont mis en place un travail de recherche-action avec terreaux locaux, donc un jardin d'insertion à Notre-Dame-de-Lozier, nous-mêmes et la cantine mobile et solidaire. Et du coup, alors là pour l'instant c'est fini, mais on a déjà repris date pour refaire des échanges. Donc en gros, ça a consisté à travailler sur principalement des thématiques de précarité alimentaire et d'accès à l'alimentation. Et du coup, on travaillait directement avec les maisons de quartier et les animatrices. Et on avait des échanges avec les gens de ces maisons de quartier. Du coup, on avait des personnes des maisons de quartier qui sont venues ici faire des récoltes. Une autre fois, c'était faire une cantine. Nous, on allait sur place à Saint-Nicolas pour faire un atelier confiserie, parce qu'on a des très bons cuisiniers et cuisinières sur la ferme. Et voilà, on a ce lien un peu avec Romans qui est assez sympa, dans le sens où on sait très bien que certains publics touchés par ces maisons de quartier n'ont pas la chance de pouvoir notamment venir tous les jeudis ici. Et c'est compliqué pour elles parce que bah, ils n'ont souvent pas de mobilité, etc. Mais pour nous, c'est important de pouvoir leur permettre de mettre un pied dans des choses qu'ils ne connaissent pas, notamment l'agriculture.
Tu parles au passé ou j'ai rêvé ?
Non, alors malheureusement, la recherche-action est terminée aujourd'hui. Mais on a toujours un lien, c'est-à-dire pas. Je crois que c'est à la fin du mois, il y a une animation qui est prévue avec LE. Donc ils vont venir une demi-journée sur la ferme, ils viennent en minibus avec une dizaine de personnes pour faire un petit atelier. Donc je ne sais pas quel sera l'atelier, parce que c'est Marina qui fait les plantes aromatiques et médicinales qui s'en occupe. Mais je pense que comme elle est aussi animatrice nature, elle va leur faire à la fois un petit atelier où il y aura un petit peu de travail à faire et puis une découverte peut-être paysagère ou biodiversité, je ne sais pas trop. Voilà. Okay. Donc on continue à avoir un lien avec ces gens-là et avec d'autres, notamment voilà, après on est aussi sur des questions de sécurité sociale de l'alimentation avec.
J'allais te le demander.
Eh ben ouais, donc nous sur la ferme déjà, on a depuis un an, on a entrepris d'avoir un marché, notamment sur les légumes, avec 3 tarifs. Du coup, un tarif normal qui nous permet de nous payer à peu près normalement, un tarif un peu plus élevé qui va permettre d'avoir un tarif moins cher. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce tarif moins cher, c'est de permettre à celles et ceux qui n'auraient pas les moyens de te payer des légumes un peu moins chers. Au début, on avait mis, pour dire les choses exactes, plus 10% et moins 10%. Là, vu qu'on avait, au bout d'un an, on était sur... Quand on a fait le plus-moins, on était un peu en positif. On a décidé de faire plus 10 et moins 20%.
Voilà. Mais comment ça se gère, c'est-à-dire sur les marchés, par exemple, quand tu gères ça ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est pas simple parce que quand on fait le marché à la ferme le jeudi soir, et ben pendant 2-3 heures, on vend des légumes. Et pendant la première heure et demie, on vend des légumes à flux tendu. Donc on a client sur client et on discute, mais on n'a pas le temps d'échanger plus que ça. Et du coup, d'expliquer ces tarifs différenciés, ce n'est pas simple, ça prend un peu du temps. Donc on a un petit panneau pour l'instant. On travaille aussi pas mal avec des amis de l'association Courbouillon, qui travaille beaucoup sur la sécurité sociale et l'alimentation. Ils vont nous faire un beau panneau. Et après, comment ça se fait dans les faits ? Et ben, quand il y a un peu moins de monde, on essaie d'en parler aux clients. Quand ils arrivent sur le marché, ils peuvent nous dire quel tarif ils choisissent. S'ils nous disent rien, a priori c'est le tarif du milieu, hein, le tarif standard, mais ils peuvent nous dire tarif solidaire, tarif élevé, etc. Enfin, voilà. Et dans l'idée, comme je disais, nos collègues qui travaillent sur ces questions-là, il y a la maison de quartier de Romans-sur-Isère, mais il y a aussi l'association Courbouillon, Et ils vont venir aussi de temps en temps animer les marchés. C'est-à-dire que nous, on sera dans la pièce en train de vendre les légumes et eux, ils seront à l'entrée de la pièce
pour
expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on fait ça.
Oui.
Et après, le projet, là, c'est des expérimentations. Hein. Il y a ça dans d'autres fermes, notamment la ferme de Rousset à Saint-Jean-Royan, à Terreau-Loco. Et je crois qu'il y a
un truc à Dieulfi.
Ouais, à Dieulfi, ça, c'est assez vieux même à Dieulfi. Oui. Il y a une expérimentation, je crois, à Valence en ce moment. Il y en a à Grenoble aussi.
Le moulin urbain.
Ouais, le moulin urbain, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est des petites expérimentations de caisses. Mais après, dans l'idée, c'est que bah, ces caisses se mettent en réseau et aussi qu'il y ait il y a toute l'histoire de conventionnement. Donc on va rentrer sur ce qui est un peu actuellement ou ce qu'a été la sécurité sociale au niveau santé. C'est-à-dire qu'on cotisera et ces cotisations permettront d'avoir un chèque alimentaire où on pourra aller acheter dans plusieurs points de vente, style des marchés. Alors, notamment nous on travaille avec le groupe SSA, donc Sécurité Sociale de l'Alimentation, qui s'appelle Bourne Sud Grésivaudan. Du coup il y aura peut-être 20 à 50 personnes qui vont être dans ce truc, et donc c'est des potentiels clients, on va dire, hein. Et du coup l'idée, comme je disais, au niveau de la sécurité sociale, donc on cotise, donc là il y aura une cotisation, donc les gens ils vont payer selon leurs moyens. Donc, les gens qui ont plus d'argent, ils vont payer un peu plus que les gens qui ont moins d'argent. Et après, tout le monde va avoir un espèce de bon d'achat, chèque alimentaire, qui pourra aller dépenser dans des points qui seront conventionnés et choisis par l'ensemble de ces personnes. Et du coup, ça peut être notamment un marché à la ferme, ça peut être un magasin de producteurs, ça peut être une biocoop ou autre. Et du coup, les gens arriveront avec leur chèque et utiliseront ces chèques dans ces endroits. Et l'idée, c'est vraiment l'étape suivante de la SSA. Enfin, faire des tarifs différenciés sur un marché tout seul dans son coin, c'est bien, mais l'idée, c'est vraiment de monter un réseau, une structure. Après aussi, d'être en lien tous et toutes et faire profiter au plus grand nombre cette pratique. Après, ce qui n'est pas évident, c'est que bah, du coup, c'est une démarche citoyenne. Actuellement, et ça s'entend qu'il y a une volonté de rester en dehors des subventions que pourrait donner une communauté de communes ou une commune, ou peut-être plus une agglo qu'une commune, des choses comme ça, pour garder un peu le pouvoir, parce qu'il y a eu quelques expériences par que je ne connais pas bien, donc je ne vais pas en parler, où il y a des fois un peu de la récupération politique qui peut avoir lieu sur ce genre de sujet. Donc voilà, actuellement, en tout cas sur le collectif qui est en cours sur le réseau Bourne Sud Grésivaudan, c'est l'idée de monter ça l'automne prochain. Et puis je sais qu'il y a aussi une autre association qu'on connaît bien et qu'on a accueillie qui s'appelle La Cueillette, du coup qui fait du glanage dans des fermes.
Ils sont sur Valence.
On les a accueillis ici et je crois qu'ils travaillent aussi sur un projet commun sur Valence. Voilà.
On précise quand même, c'est bio. Parce oui. Que mine de rien, on ne l'a pas dit.
Bien sûr, on est une ferme tout en agriculture biologique. Pour nous, c'est le minimum, dans le sens où on est engagé aussi avec une autre association. On est adhérent, qui s'appelle Ferme Sauvage et Paysanne, qui a été créée à la base par Elsa Garner et Sébastien Blache, qui sont à Montélier. Du coup, cette association, elle regroupe des paysannes et des paysans soucieux de l'agroécologie, mais aussi plein de naturalistes. Donc, il y a plein de naturalistes, notamment, c'est très lié à... Il y a beaucoup de naturalistes de l'ALPO, donc la Ligue de Protection de l'Environnement, Drôme, Isère, etc., mais d'autres naturalistes. Donc, il y a vraiment des spécialistes un peu de toutes sortes, hein, sur l'ornitho, mais aussi, ça peut être sur les amphibiens, sur plein de choses. Et du coup, l'idée, c'est quand on adhère à cette association, bah, y a des visites de fermes. Donc même pour entrer dans cette association, il y a tout un groupe de paysans, paysannes et de naturalistes qui vont venir sur la ferme et à qui on va faire visiter les parcelles. Et du coup, ils vont sortir ce qu'on appelle un diagnostic agroécologique. Donc ils vont dire, ah bah là, c'est super, mais bon, là, ton champ de grande culture, il fait 5 hectares. Et tu vois, entre les deux, il y a une forêt. Donc peut-être que si tu laissais une bande enherbée ou une bande fleurie au milieu, ça pourrait faire un corridor écologique. Donc ils nous donnent plein de conseils comme ça pour avancer sur les questions d'agroécologie. Et pour nous, on est sur 50 hectares. Et en fait, du coup, on a une action directe sur notre environnement et notre paysage. Et dans le monde d'aujourd'hui, pour nous, c'est très important. On a la chance à Saint-Lathier ou à Maud-des-Sablières d'être entouré de forêts, de petites rivières. On a une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique à la zone des Salvières, là, quand on arrive, qui est une ancienne carrière de sable. On a des zones humides. Voilà, donc nous, au niveau de la ferme, et grâce aussi à cette association, on travaille vraiment sur l'agroécologie. On a fait construire une mare plutôt, parce que c'est qu'on fait beaucoup par la LPO il y a un peu de temps. On plante en utilisant bien sûr des subventions tous les deux ans. On en a d'ailleurs planté avec l'école du village. Et puis on réfléchit aussi à nos pratiques. Voilà.
Est-ce que ça sort un peu des cadres classiques des reconnaissances bio et tout ça, ou pas? Enfin. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, quand on fait des produits, en fait, on demande des agréments ou des trucs, non ?
Oui, c'est au-delà, en fait. La certification bio, voilà. La certification bio, c'est des entreprises extérieures donc, qu'on paye pour venir nous certifier, ce qui est quand même assez aberrant. Hein, oui. Du coup, nous, on paye pour...
Donc, du coup, vous êtes sortis de ça ?
Non, on est toujours on est dans l'agriculture biologique, notamment parce qu'on a des points de vente, style les Biocoop, certains magasins de producteurs dans lesquels on est obligé d'avoir ce certificat. Et puis parce que pour nous, c'est aussi important. Mais effectivement, on paye des organismes qui vont nous dire qu'on ne pollue pas, quoi. Donc on paye pour ne pas être pollueur, quand d'autres ne payent pas pour polluer. Après ça, c'est mon point de vue personnel et ça n'entraîne que moi. Mais voilà. Moi, ouais, je le dis clairement. Et aujourd'hui, pour nous, c'est important d'être au-delà de l'agriculture biologique parce qu'on peut être en agriculture... Enfin, voilà, je ne veux pas choquer les auditeurs, mais on peut être en agriculture biologique et utiliser certains pesticides. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas 10. Il y en a un ou deux, mais notamment pour éviter des maladies et des ravageurs. Voilà, l'agriculture biologique, c'est bien, mais certaines pratiques culturales agroécologiques sont aussi très importantes. Et avoir des espaces de biodiversité aussi, c'est important.
Alors, est-ce qu'il y a une dimension un peu, comment je pourrais dire, éducation populaire ou éducation des enfants, ou avoir cette approche comme ça de diffuser finalement comme une bonne parole ?
Eh bien, on n'est pas encore arrivé là. Il y a des envies de ça aujourd'hui, mais comment dire ?
Faut du temps.
Alors, du coup, on est très heureux de faire de l'accueil de personnes porteuses de handicap, de gens issus de milieux populaires qui viennent de la ville. Et on accueille aussi potentiellement des groupes style des personnes en formation agricole, des BPEA, etc., qui viennent visiter la ferme et qui nous questionnent sur le côté collectif. Mais on n'a pas encore ouvert à ce qu'on appelle une ferme pédagogique. Marina... et naturaliste, enfin animatrice nature, on a tous et toutes des compétences qu'on pourrait mettre à disposition de ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est principalement le temps. On est en phase d'installation, le bâtiment, il a un an et quelques, on n'a pas fini les travaux, on commence seulement à se l'approprier, et on est sur des activités agricoles très intenses au niveau temps de travail, pour tous les ateliers. Hein. Là, on ne parle pas que du maraîchage, on parle aussi des noix à certaines époques de l'année. Aujourd'hui, en ce moment, on a les asperges, les grandes cultures, etc., l'élevage, bref.
Juste une question, vous prenez des gens en plus, des fois, pour les récoltes ou...
Oui, bien sûr. Alors, on salarie un tout petit peu, parce que, comme je disais, on est en phase d'installation, donc on n'a pas encore peut-être assez de revenus et d'assises pour le faire. On accueille des stagiaires, mais pas de woofer, donc seulement des stagiaires pour des périodes de minimum 2 semaines. Et après, on est aussi sur des réseaux d'entraide agricole, en maraîchage, mais aussi en plantes aromatiques et médicinales. Donc en maraîchage, ça consiste à... On se regroupe à 4 fermes, et une demi-journée par ferme, tous les gens vont aller dans une de ces 4 fermes pour filer un coup de main. Et notamment sur le maraîchage, sur des personnes qui sont installées seules, et ben... Quand on va, par exemple, occulter, donc c'est-à-dire mettre une bâche sur le sol, une grande bâche de, mettons, 30 mètres de long par 10 mètres, on la met pendant très longtemps sur le sol pour le couvrir et éviter qu'il y ait de l'herbe qui pousse, et pour quand on l'enlève, ça soit facile à travailler et à planter. Mettre une bâche comme ça tout seul, s'il y a du vent, ou mettre des poids, enfin, plein de choses, plein de travail physique sont très difficiles seuls. Du coup, on est à la fois, on a de l'entraide au sein de la ferme, mais on a aussi de l'entraide qui vient de l'extérieur, notamment de paysans, paysannes, de stagiaires. Et on a eu, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, un chantier collectif il y a peu de temps avec plus là qu'on a conduit avec l'association pour créer un mur en pierre sèche. Voilà. Mais effectivement, et pour revenir sur la question de l'accueil pédagogique, vraiment, on n'est pas encore, on n'est pas là-dessus. Peut-être un jour, ça viendra. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, comme je disais. L'autre réseau dans lequel on est, il s'appelle les fermes partagées. Du coup, c'est une SCIC qui est basée à Lyon et qui regroupe plein de fermes collectives, principalement en SCOP et en SCIC, pour les aider à avancer, à se structurer. Qui est aussi là pour porter un plaidoyer politique pour justement avoir les aides agricoles quand on est une SCIC ou une SCOP, ce qui, par exemple, pour nous, simplifierait les choses, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin d'avoir quatre structures plus une SCIC, on n'aurait plus qu'une seule structure. Donc on travaille avec LE. Et comme on est une ferme collective assez récente, et ben on est beaucoup sollicité. Mais c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où on est beaucoup sollicité, on a beaucoup de demandes de stage auxquelles on répond, hein. Comme on est neuf, on peut accueillir des fois plusieurs personnes en stage en même temps, mais on a aussi beaucoup de collectifs qui sont en train de s'installer à plusieurs, ou des fois des gens qui sont juste en... On réfléchit, on ne sait pas trop, on aimerait bien venir. Alors on accueille ces personnes avec plaisir, mais attention, on les accueille sur des temps longs. Parce qu'une personne qui va venir... une demi-journée, déjà, elle ne verra pas l'ensemble des neuf personnes, c'est impossible. Et puis, l'échange n'est pas gagnant-gagnant. Si une personne vient pour nous poser des questions sur le collectif et qu'elle passe qu'une demi-journée, on n'aura pas de temps de répondre à toutes ces questions, ça sera bâclé, ça sera pas... Donc nous, on privilégie les accueils longs, donc les stages de 2 semaines, mais plus, c'est encore mieux, pour justement... on va travailler un peu ensemble, et puis on va faire une tâche, par exemple, je ne sais pas. Immersion. Exactement, on va désherber des carottes, et quand on désherbe des carottes, on a le temps de parler. Par contre, forcément, quand on fait du tracteur, ça ne va pas être possible. Et du coup, on prend des temps aussi en dehors du travail avec les stagiaires, c'est-à-dire qu'on va se dire, on prend une heure, et si tu as des questions, vas-y, pose-les, c'est le moment. Ça peut être sur des techniques culturelles, ça peut être sur comment vous organisez au niveau des prises de parole en réunion, peu importe le sujet, mais en tout cas, voilà, donc on a beaucoup de sollicitations et on y répond. Mais comme je disais, on est vraiment sur préférer du temps long. Et on a aussi des sollicitations de personnes qui sont pas forcément qui sont intéressées par le projet, mais pas forcément pour s'installer un jour. Donc des journalistes radio, des journalistes de presse aussi également. Et aussi même des chercheuses, donc des gens qui font un doctorat ou une thèse sur des fois sur des sujets sociologiques, sur d'autres sujets. Et du coup, on accueille ces personnes et on les accueille selon des principes, quoi. Soit c'est, par exemple, pour les BPROA qui viennent, ils sont en formation agricole, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que ces personnes viennent faire un petit chantier et une autre partie du temps, on va discuter. Des fois, si c'est des chercheurs ou des chercheuses qui ont du budget et qui n'ont pas le temps de venir aider, on va faire un entretien et elles poseront les questions et on va facturer. En fait, du coup, la CLESAP va facturer cette prestation parce que en fait, nous, ça nous prend du temps sur notre atelier. Et ce qu'on fait pour la CLESAP, c'est bénévolat. Donc, si on arrive à mettre un petit peu d'argent dedans, ça peut être sympa. Voilà.
Et juste une question, dans le coin, vous êtes les seuls ou il y a d'autres structures ?
Non, on n'est pas les seules fermes collectives dans le coin. Hein. Alors d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'est une ferme collective. Hein, et on a fait ça avec les fermes partagées. L'idée, c'est une ferme collective, déjà, c'est plusieurs personnes, forcément, et qui a envie et qui se dit ferme collective. C'est-à-dire que on a souvent, par exemple, des GAEC très familiaux avec le père, la mère et le fils. Mais pas forcément de personnes extérieures, et du coup, ils ne se disent pas forcément ferme collective. Mais pour répondre à ta question, donc là, on ferme collective dans le coin, donc j'ai cité déjà, on a la ferme des Roussets, donc la ferme des Roussets qui est un collectif installé à Saint-Jean-en-Royan, qui fait du maraîchage, paysan boulanger, apiculture principalement. On a la ferme des Volonteux, bien sûr, qui est installée depuis plus longtemps que nous, et qui est assez proche dans le modèle, parce qu'eux, ils ont monté une SCOP, sauf que eux, ils ont tout mis dans la SCOP et du coup, malheureusement, ils ne peuvent pas avoir les subventions agricoles, style dotation jeunes agriculteurs, ou ils ne touchent pas à la PAC directement avec la SCOP. Voilà. Après, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Enfin, il y en a à Lyon, il y a le Courtil de Quincieux, il y a la ferme de Chalonne. Enfin, après, je vais peut-être pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais oui, on, en tout cas, avec les fermes partagées, on travaille sur un quart sud-est de la France. Et on se rend compte parce qu'une fois tous les deux ans, on fait des rencontres intercollectives, on va dire, où on accueille plein de fermes collectives et on essaie d'apprendre chacun, chacune des uns des autres, des unes des autres. Et on se rend compte que bah, il y en a plein et il y a surtout plein de projets émergents de partout et ils sont souvent bien aidés par les ADA, des fois ils sont accompagnés par les fermes partagées et nous on est sollicités pour des fois pour accueillir des stagiaires de ces projets-là qui ont plein de questions et on est très content d'y répondre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est chaque paysan, chaque paysanne, chaque ferme est unique et chaque ferme collective est unique. Et du coup, bah, y a pas un modèle, il y a 10 modèles. Et vraiment, l'idée de faciliter l'installation des fermes collectives demain, c'est aussi répondre à un enjeu sociétal important. C'est-à-dire que on entend depuis déjà 5 ans, dans les 10 ans à venir, la moitié des agriculteuristes, alors bon, ils le mettent au masculin parce que la plupart c'est des hommes, la moitié des agriculteuristes partiront à la retraite. Et souvent, là, on est dans une situation où les enfants, eh ben, ils ont vu leurs parents, leur mère, leur père travailler très dur toute leur vie et ils ne veulent pas reprendre la ferme, mais ça se comprend. Et puis souvent, c'est des investissements financiers qui sont extrêmement lourds, notamment sur l'élevage ou la grande culture, où il faut sortir des centaines de milliers d'euros. Et du coup, bah, le collectif est une des réponses à cet enjeu-là. En tout cas, pour pas que ces fermes partent à l'agrandissement sur des méga-fermes qui sont plus que des usines à produire du blé et à exporter je ne sais où.
D'avoir peut-être aussi une qualité de nourriture.
Bah, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est sûr que l'alimentation, c'est un enjeu sociétal. Et on est un peu triste que notre gouvernement et que les précédents gouvernements fassent semblant de s'en occuper. Hein. On a eu des désillusions avec les lois Egalim. Là, on a une avec la loi d'orientation agricole. Et malheureusement, on n'est pas aidé là-dessus. Donc, avec nos alliés, donc les fermes partagées, la Confédération paysanne et d'autres, on est là pour travailler à ça et pour aider les personnes qui souhaitent s'installer à aller jusqu'au bout de leur projet, parce que c'est un peu un parcours du combattant. Hein, quand on n'est pas issu du milieu agricole, quand on a des discriminations liées au sexe, à la race, ce genre de choses, et ben aujourd'hui en France, c'est très compliqué de s'installer. Donc, être plusieurs, ça aide financièrement, ça aide pour avoir du poids auprès d'institutions qui ne sont pas toujours très accueillantes. Et donc voilà, on est une des nombreuses fermes collectives qui existent en France. Et maintenant qu'on a un petit peu de recul, on essaye d'être aussi là-dedans, d'être proactif pour aider comme on peut celles et ceux qui veulent s'installer.
Alors là, on arrive sur la fin, il y a encore quelques minutes. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle quand même des guinguettes, parce que quand même, il faut faire un peu de publicité.
Bah oui, bien sûr. Du coup, les guinguettes, donc comme je l'ai déjà dit, tous les jeudis, on a un marché. Donc on vend pain, produits laitiers, légumes. 17h, rendez-vous 17h au hameau des Sablières à Saint-Lathier. Donc on a pain, produits laitiers, légumes, huile, farine, tisane, pesto, sirop et plants de légumes. Et à tous ces marchés, on propose une buvette et de la restauration. Donc c'est soit des frites, soit un plat cuisiné. Donc voilà. Et des sorbets de glace aussi.
Et une petite idée des prix ou...
Alors les prix de quoi?
La restauration,
la restauration, et on fait je sais plus, les barquettes de frites, elles doivent être à 3,50 ou 4 euros. Une boule de glace, c'est 2 euros ou 1,50. Bon, les prix des légumes, je vais pas tous les vous les sortir,
si on vient manger,
vous en avez pour si c'est une assiette, c'est entre 8 et 10 euros.
Okay, voilà.
Nous, on fait de la cuisine paysanne avec nos produits, et on n'est pas un restaurant, c'est de la cuisine à emporter.
Mais les gens mangent sur place.
Oui.
Ou... Ah oui. D'accord.
Mais on va pas vous servir à table. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas un restaurant.
D'accord.
Okay. Mais c'est de qualité et voilà. N'hésitez pas à venir. Et puis sinon, comme on va parler un petit peu des prochains événements qui auront lieu à la ferme. Ouais. Alors, comme on sait qu'il y a plus de monde quand il y a un concert, c'est l'association qui fait à manger en mode cantine. Et là, on fait à manger pour 100, 150 personnes.
Ah ouais, ouais. D'accord, ok.
Voilà.
Et ça, c'est... Ben, on invite les gens finalement à aller voir sur votre site, j'imagine, pour avoir toute la programmation.
Il y aura les... toutes les infos, elles vont être mises très, très vite sur notre site. Elles seront mises sur notre site internet et elles sont également sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Okay. Bon, un mot de la fin ?
Eh ben, est-ce que j'enchaîne sur les autres ?
Rapidement, tu veux expliquer chaque...
Non, j'ai juste dit les dates, est-ce que c'est... Alors, pour les autres dates, on aura jeudi 5 juin à 20h Diadine. Donc, c'est un duo vocal polyphonique féminin avec chant et guitalélé. Jeudi 19 juin, le spectacle Feu de la compagnie La Grande Magouille. Alors là, ça sera un trieur théâtral musical haletant. Voilà, donc c'est un spectacle déambulatoire où le public va choisir le sens de l'histoire. Jeudi 3 juillet 20h, on accueillera le groupe Lunati, donc c'est de la chanson roumaine, guitare, accordéon et voix, voilà, tzigane, un truc de l'Est. Ensuite, jeudi 31 juillet, nous accueillerons un spectacle de cirque des jeunes de la compagnie La Vrille qui font une tournée en vélo. Et enfin, jeudi 4 septembre, nous accueillerons à 20h le groupe Épicerie de Nuit, qui est un groupe hip-hop et musique instrumentale. Voilà pour les dates.
Eh ben, c'est génial. Eh ben, merci Mathieu.
Eh ben, merci à toi d'être venu. Et puis au plaisir de vous retrouver à la Clé des Sables.
Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et tu sais mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière, tu parles d'une carrière dans une firme planétaire. Je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants. Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et après tout j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit. Et dans 3 ans c'est la retraite, je sauverai pas la planète, je vais pas me prendre la tête, non. Pas me prendre la tête, non, non. Je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonne bordure. Moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement au minimum d'air pur. Faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse, je profiterai de la vieillesse. Hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel y'a plus que toi, dans ce bordel y'a plus que toi. Hey, toi t'es celui qui rêve, je t'envie, j'en crève que ma vie est triste, que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es, je te laisse mes regrets et mon amertume. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont vécu grassement, qui te laissent un héritage. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont traversé les temps sans faire de sentiments. Et après, et après, et après, et après.
On pourrait faire une capsule temporelle.
On referme la capsule temporelle et on se donne rendez-vous le mois prochain.